Chapitre 9. Sésame, ouvre-toi. L'aiguille d'Étretat est creuse. Phénomène naturel? Excavation produite par des cataclysmes intérieurs ou par l'effort insensible de la mer qui bouillonne, de la pluie qui s'infiltre? Ou bien œuvre surhumaine exécutée par des humains celtes, gaulois, hommes préhistoriques? Questions insolubles, sans doute. Et qu'importait? L'essentiel résidait en ceci. L'aiguille était creuse. À 40 ou 50 mètres de cette arche imposante, qu'on appelle la porte d'aval et qui s'élance du haut de la falaise, ainsi que la branche colossale d'un arbre, pour prendre racine dans les rocs sous-marins, s'érige un cône calcaire démesuré. Et ce cône n'est qu'un bonnet d'écorce pointue posé sur du vide. Révélation prodigieuse. Après Lupin, voilà que Beautrelet découvrait le mot de la grande énigme, qui a plané sur plus de 20 siècles. Mot d'une importance suprême pour celui qui le possédait jadis, aux lointaines époques où des hordes de barbares chevauchaient le vieux monde. Mot magique qui ouvre l'antre cyclopéen à des tribus entières fuyant devant l'ennemi. Mot mystérieux qui garde la porte de l'asile le plus inviolable. Mot prestigieux qui donne le pouvoir et assure la prépondérance. Pour l'avoir connu, ce mot, César peut asservir la Gaule. Pour l'avoir connu, les Normands s'imposent au pays et de là, plus tard, adossés à ce point d'appui, conquièrent l'île voisine, conquièrent la Sicile, conquièrent l'Orient, conquièrent le Nouveau Monde. Maître du secret, les rois d'Angleterre dominent la France, l'humilient, la dépèce, se font couronner roi à Paris. Ils le perdent, et c'est la déroute. Maître du secret, les rois de France grandissent, débordent les limites étroites de leur domaine, fondent peu à peu la grande nation et rayonnent de gloire et de puissance. Ils l'oublient ou ne savent point en user, et c'est la mort, l'exil, la déchéance. Un royaume invisible, au sein des eaux et à 10 brasses de la terre. Une forteresse ignorée, plus haute que les tours de Notre-Dame, est construite sur une base de granit plus large qu'une place publique. Quelle force et quelle sécurité! De Paris à la mer, par la Seine. Là, le Havre, ville nouvelle, ville nécessaire. Et à cet lieu de là, l'aiguille creuse. N'est-ce pas l'asile inexpugnable? C'est l'asile, et c'est aussi la formidable cachette. Tous les trésors des rois, grossis de siècle en siècle, tout l'or de France, tout ce qu'on extrait du peuple, tout ce qu'on arrache au clergé, tout le butin ramassé sur les champs de bataille de l'Europe, c'est dans la caverne royale qu'on l'entasse. Vieux sous d'or, écus reluisants, doublons, ducats, florins, Guinée, et les pierreries, et les diamants, et tous les joyaux, et toutes les parures, tout est là. Qui le découvrirait? Qui saurait jamais le secret impénétrable de l'aiguille? Personne. Si, Lupin. Et Lupin devient cette sorte d'être vraiment disproportionné que l'on connaît. Ce miracle impossible à expliquer tant que la vérité demeure dans l'ombre. Si infinies que soient les ressources de son génie, elles ne peuvent suffire à la lutte qu'il soutient contre la société. Il en faut d'autres, plus matérielles. Il faut la retraite sûre. Il faut la certitude de l'impunité, la paix qui permet l'exécution des plans. Sans l'aiguille creuse, Lupin est incompréhensible. C'est un mythe, un personnage de roman, sans rapport avec la réalité. Maître du secret? Et de quel secret? C'est un homme comme les autres, tout simplement, mais qui sait manier de façon supérieure l'arme extraordinaire dont le destin l'a doté. Donc, l'aiguille est creuse. C'est là un fait indiscutable. Restait à savoir comment l'on y pouvait accéder. Par la mer, évidemment. Il devait y avoir, du côté du large, quelques fissures abordables pour les barques à certaines heures de la marée. mais du côté de la terre. Jusqu'au soir, Beautrelet resta suspendu au-dessus de l'abîme, les yeux rivés à la masse d'ombre que formait la pyramide, et songeant, méditant de tout l'effort de son esprit. Puis il descendit vers Étretat, choisit l'hôtel le plus modeste, dîna, monta dans sa chambre et déplia le document. Pour lui, maintenant, c'était un jeu que d'en préciser la signification. Tout de suite, il s'aperçut que les trois voyelles du mot « Étretat » se retrouvaient à la première ligne, dans leur ordre et aux intervalles voulus. Cette première ligne s'établissait dès lors ainsi. « E.A.A. » Étretat. Quel mot pouvait précéder Étretat? Des mots sans doute qui s'appliquaient à la situation de l'aiguille par rapport au village. Or, l'aiguille se dressait à gauche, à l'ouest. Il chercha, et se souvenant que les vents d'ouest s'appelaient sur les côtes « vents d'aval » et que la porte était justement dénommée « d'aval », il inscrivit en aval d'Étretat, point A, point, point. La seconde ligne était celle du mot demoiselle. Et constatant aussitôt, avant ce mot, la série de toutes les voyelles qui composent les mots la chambre des, il nota les deux phrases. En aval d'Étretat, la chambre des demoiselles. Il eut plus de mal pour la troisième ligne. Et ce n'est qu'après avoir tâtonné que, se rappelant la situation, non loin de la chambre des demoiselles, du castel construit à la place du fort de Fréfossé, il finit par reconstituer ainsi le document presque complet. En aval d'Étretat, la chambre des demoiselles, sous le fort de Fréfossé, aiguille creuse. Cela, c'était les quatre grandes formules. Les formules essentielles et générales. Par elles, on se dirigeait en aval d'Étretat. On entrait dans la chambre des demoiselles. On passait, selon toute probabilité, sous le fort de Fréfossé. Et l'on arrivait à l'aiguille. Comment? Par les indications et les mesures qui formaient la quatrième ligne. D, DF surmonté d'une barre, rectangle avec coin, 19F plus 44, triangle avec point, 357, triangle avec point. Cela, c'était évidemment les formules plus spéciales, destinées à la recherche de l'issue par où l'on pénétrait et du chemin qui conduisait à l'aiguille. Beautrelet supposa aussitôt, et son hypothèse était la conséquence logique du document, que s'il y avait réellement une communication directe entre la terre et l'obélisque de l'aiguille, le souterrain devait partir de la chambre des demoiselles, passer sous le fort de Fréfossé, descendre à pic les 100 mètres de la falaise et, par un tunnel pratiqué sous les rocs de la mer, aboutir à l'aiguille creuse. L'entrée du souterrain? N'était-ce pas les deux lettres, D et F, si nettement découpées, qu'il a désigné, qu'il a livré peut-être aussi grâce à quelques mécanismes ingénieux. Toute la matinée du lendemain, Isidore flâna dans Étretat et bavarda de droite et de gauche pour tâcher de recueillir quelques renseignements utiles. Enfin, l'après-midi, il monta sur la falaise. Déguisé en matelot, il s'était rajeuni encore et il avait l'air d'un gamin de 12 ans avec sa culotte trop courte et son maillot de pêcheur. À peine entré dans la grotte, il s'agenouilla devant les lettres. Une déception l'attendait. Il eut beau frapper dessus, les pousser, les manipuler dans tous les sens, elles ne bougèrent pas. Et il se rendit compte assez rapidement qu'elles ne pouvaient réellement pas bouger, et par conséquent, qu'elles ne commandaient aucun mécanisme. Pourtant, elles signifiaient quelque chose. Des informations qu'il avait prises dans le village, il résultait que personne n'avait jamais pu en expliquer la présence et que l'abbé Cochet, en son précieux livre sur Étretat, s'était lui aussi penché vainement sur ce petit rébus. Mais Isidore savait ce qu'ignorait le savant archéologue normand, c'est-à-dire la présence des deux mêmes lettres sur le document, à la ligne des indications. Coïncidence fortuite ? Impossible. Alors, une idée lui vint brusquement, et si rationnelle, si simple, qu'il ne douta pas une seconde de sa justesse. Ce D et cet F, n'étaient-ce pas les initiales de deux des mots les plus importants du document ? Mots qui représentaient, avec l'aiguille, les stations essentielles de la route à suivre. La chambre des demoiselles et le fort de Fréfossé. Le D de demoiselles et l'F de Fréfossé. Il y avait là un rapport trop étrange pour être le fait du hasard. En ce cas, le problème s'offrait ainsi. Le groupe DF représente la relation qui existe entre la chambre des demoiselles et le fort de Fréfossé. La lettre isolée D qui commence la ligne représente les demoiselles, c'est-à-dire la grotte où il faut tout d'abord se poster. Et la lettre isolée F qui se place au milieu de la ligne représente Fréfossé, c'est-à-dire l'entrée probable du souterrain. Entre ces divers signes, il en reste deux. Une sorte de rectangle inégal, marqué d'un trait sur la gauche, en bas, et le chiffre 19, signe qui, en toute évidence, indique à ceux qui se trouvent dans la grotte le moyen de pénétrer sous le fort. La forme de ce rectangle intriguait Isidore. Y aurait-il autour de lui, sur les murs, ou tout au moins à portée du regard, une inscription ? Une chose quelconque affectant une forme rectangulaire. Il chercha longtemps, et il était sur le point d'abandonner cette piste, quand ses yeux rencontrèrent la petite ouverture percée dans le roc et qui était comme la fenêtre de la chambre. Or, les bords de cette ouverture dessinaient précisément un rectangle rugueux, inégal, grossier, mais tout de même un rectangle. Et aussitôt, Beautrelet constata qu'en posant les deux pieds sur le D et l'F gravés dans le sol, et ainsi s'expliquait la barre qui surmontait les deux lettres du document, on se trouvait exactement à la hauteur de la fenêtre. Il prit position à cet endroit et regarda. La fenêtre étant dirigée, nous l'avons dit, vers la terre ferme, on voyait d'abord le sentier qui reliait la grotte à la terre, sentier suspendu entre deux abîmes. Puis on apercevait la base même du monticule qui portait le fort. Pour essayer de voir le fort, Beautrelet se pencha vers la gauche. Et c'est alors qu'il comprit la signification du trait arrondi, de la virgule qui marquait le document en bas à gauche. En bas à gauche de la fenêtre, un morceau de silex formait saillie, et l'extrémité de ce morceau se recourbait comme une griffe. On eût dit un véritable point de mire. Et si l'on appliquait l'œil à ce point de mire, le regard découpait, sur la pente du monticule opposé, une superficie de terrain assez restreinte et presque entièrement occupée par un vieux mur de briques, vestige de l'ancien fort de Fréfossé ou de l'ancien oppidum romain construit à cet endroit. Beautrelet courut vers ce pan de mur, long peut-être de 10 mètres, et dont la surface était tapissée d'herbes et de plantes. Il ne releva aucun indice. Et cependant, ce chiffre 19... Il revint à la grotte, sortit de sa poche un peloton de ficelle et un mètre en étoffe dont il s'était muni, noua la ficelle à l'angle de silex, attacha un caillou au 19e mètre et le lança du côté de la terre. Le caillou atteignit à peine l'extrémité du sentier. Triple idiot ! Est-ce que l'on comptait par mètre à cette époque ? 19 signifie 19 toises, ou ne signifie rien. Le calcul effectué, il compta 37 mètres sur la ficelle, fit un nœud et, à tâtons, chercha sur le pan du mur le point exact et forcément unique où le nœud formé à 37 mètres de la fenêtre des demoiselles toucherait le mur de Fréfossé. Après quelques instants, Le point de contact s'établit. De sa main restée libre, il écarta des feuilles de molène poussées entre les interstices. Un cri lui échappa. Le nœud qu'il tenait appliqué du bout de son index était posé sur le centre d'une petite croix sculptée en relief sur une brique. Or, le signe qui suivait le chiffre 19 sur le document était une croix. Il lui fallut toute sa volonté pour dominer l'émotion qui l'envahit. Hâtivement, de ses doigts crispés, il saisit la croix et, tout en appuyant, la tourna comme il eût tourné les rayons d'une roue. La brique oscilla. Il redoubla son effort. Elle ne bougea plus. Alors, sans tourner, il appuya davantage. Il la sentit aussitôt qui cédait. Et tout à coup, il y eut comme un déclenchement, un bruit de serrure qui s'ouvre. Et à droite de la brique, sur une largeur d'un mètre, le pan du mur pivota et découvrit l'orifice d'un souterrain. Comme un fou, Beautrelet empoigna la porte de fer dans laquelle les briques étaient scellées, la ramena violemment et la ferma. L'étonnement, la joie, la peur d'être surpris convulsaient sa figure jusqu'à la rendre méconnaissable. Il eut la vision effarante de tout ce qui s'était passé là, devant cette porte, depuis 20 siècles, de tous les personnages initiés au grand secret qui avaient pénétré par cette issue. Celtes, Gaulois, Romains, Normands, Anglais, Français, barons, ducs, rois, et après eux tous, Arsène Lupin, et après Lupin, lui, Beautrelet. Il sentit que son cerveau lui échappait. Ses paupières battirent. Il tomba évanoui et roula jusqu'au bas de la rampe, au bord même du précipice. Sa tâche était finie. Du moins, la tâche qu'il pouvait accomplir seul, avec les seules ressources dont il disposait.